Ismaël au Kasher oriental. J'ai repris totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Koumbati au Kasanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous dans cet échange. La République démocratique du Congo reçoit de plusieurs de ses partenaires l'aide au développement destinée au financement des projets pour l'amélioration du bien-être de la population et l'accélération de la croissance et la création de l'emploi. Plusieurs observateurs estiment que les taux d'exécution de ces projets ainsi que leur impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations sont faibles. Certains attribuent cette situation à l'absence d'une politique efficace des gestion de l'aide extérieure au développement. Une autre opinion propose par contre la création d'une structure indépendante des coordinations et des gestion de l'aide au développement pour plus d'efficacité. Qu'en pensez-vous? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines. Mise en onde par Mimi Kindou. Julie Feza assure la réalisation et Pierrot et la Meiji vous le présentent sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèle, les auditeurs, bienvenue à tous.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
La RTC reçoit plusieurs de ses partenaires en de l'aide au développement, cette aide qui en principe doit financer les projets pour l'amélioration du bien-être de la population, l'accélération de la croissance et la création de l'emploi. Beaucoup de gens pensent que l'aide n'a pas beaucoup d'impact sur terrain, voire même des projets qui sont exécutés à faible taux. Qu'est-ce qui doit être fait pour que l'aide au développement assure le bien-être de la population? C'est la question au centre de notre échange de ces jours. Nous avons associé à cet échange M. Christian Amani Akili, économiste, chercheur indépendant et acteur social. Christian Amani Akili, bonjour.
Bonjour mon cher ami.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller plus loin, vous êtes aussi auteur d'un livre à paraître. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces livres et les grandes lignes?
Oui, le livre est intitulé « La RDC face aux enjeux de l'heure ». J'ai orienté mon livre et ma réflexion sur la politique du gouvernement. Ce livre comporte trois parties. La première porte sur la politique des cinq chantiers, la deuxième porte sur le social et la troisième partie porte sur la révolution de la modernité. Je viens avec une touche purement scientifique et ça cadre aussi avec les missions, avec notre préoccupation d'aujourd'hui, dans la mesure où dans ce livre, le grand questionnement, ce n'est pas la façon dont le gouvernement a mené sa politique jusqu'ici, mais ce qui devait être fait pour que cette politique soit menée d'une façon efficace. Voilà en deux mots ce dont il s'agit. Mais moi, j'attends que ce livre puisse paraître pour vraiment en parler.
Et parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'efficacité, c'est ça aussi notre préoccupation dans cet échange. Beaucoup de gens estiment qu'il n'y a pas assez d'efficacité pour que l'aide au développement, c'est beaucoup de partenaires qui donnent à la RDC de l'argent, arrivent vraiment à résoudre la question de l'amélioration du bien-être de la population. Quelle lecture vous faites un peu de cette situation d'une manière brève?
Cette réflexion est fondée. Les gens qui pensent que la République, notre administration n'a pas assez d'efficacité pour mener à bien cette politique d'aide au développement, n'ont pas raison. Ils ont raison. Et je pense même que tout ça retrace, si vous voulez, la situation symptomatique de notre politique en général et de la façon dont les choses sont gérées politiquement. Ça a toujours été une réflexion que je me suis fait. Le pays sort d'un retard de plus d'un siècle. Nous sommes passés de 23 ans d'esclavage à 52 ans de colonisation, à 32 ans de dictature, sans compter la longue transition politique qui s'en est suivie. Ça fait donc plus de 100 ans de retard. Adhérer directement à un mode démocratique portant sur la mandature, je me suis posé la question en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel congolais, je me suis posé la question de savoir si nous ne sommes pas allés trop vite en besogne par rapport déjà au monde démocratique qui nous régit actuellement. Et le manque de performance dans la gouvernance, moi je le situerais aussi par rapport à cet aspect de choses, à la précipitation que nous avons fait de nos choix politiques. Et aujourd'hui, si nous pouvons observer la lenteur ou l'inefficacité du gouvernement à mener à bien certaines réformes, moi je pense que c'est aussi dû à ce choix que nous avons fait de notre politique.
Et quand vous dites qu'il y a aussi la responsabilité dans le choix de la politique, on voit bien sûr qu'après les différentes guerres, il y a ces partenaires qui se sont dit, voilà, nous pouvons apporter des capitaux dans les pays pour aider la population à réaliser des projets. Mais ce décalage entre les fonds qui sont deux fois mobilisés et la réalisation des projets sur base, là, peut être attribué à quoi? Est-ce que c'est au problème des donateurs, au problème de pays partenaires, ou bien c'est au problème entre les deux, ou peut-être il y a une adéquation entre les priorités des partenaires de ce qui amène l'argent et les vrais problèmes qui se posent dans la communauté.
Le problème, moi, je le situe de deux côtés, aussi bien du côté des partenaires que du côté de nous, de notre gouvernement. Au niveau des partenaires, il y a quand même... On se pose la question aujourd'hui si l'aide publique au développement doit forcément être menée de la même façon partout. Il est vrai que d'après l'ONG IBON, qui est une ONG internationale mexicaine, je pense, il rapporte IBON que aussi loin que remonte l'histoire des aides publiques au développement, eh bien ils n'ont jamais visé le développement d'un pays. Et tout est fait astucieusement pour donner l'impression qu'ils vous assistent, qu'ils vous aident, alors que, voilà, ils sont peut-être en train de viser une stagnation du développement pour mieux tirer les profits eux-mêmes. Est-ce que c'est mauvais? Je dirais, bon, on pourrait discuter sur la question, je ne pense pas que cette façon de faire soit mauvaise, c'est une efficacité économique, tout simplement. Mais il y a aussi un autre aspect. Est-ce que l'aide en soi doit toujours être mal perçue? Je dirais aussi non, parce que voilà, le plan Marshall a été une aide aussi. Mais le plan Marshall est bien à booster l'économie de l'Europe jusqu'à ce jour. Et donc, je reviens du côté du gouvernement pour dire que l'inefficacité dans notre démarche gouvernementale s'explique par le fait que le gouvernement a toujours pensé que pour booster notre économie, pour développer nos pays tiers, il faut forcément passer par le même chemin déjà pris par les économies avancées. Je dis non. Et donc, nous avons... Voilà, les populations des mondes sous-développés avec nos gouvernements, nous ne nous sommes jamais mis autour d'une table pour réfléchir de ces grandes questions et justement en débattre, parler librement sur la façon dont nous allons trouver efficacement le bon chemin pour mener à bon port nos pays.
Et ça, c'est important ce que vous avez dit. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont sur notre standard. La grande question aujourd'hui, c'est celle de savoir si on peut, au niveau de pays en voie de développement, s'il faudrait les appeler ainsi, tracer un modèle de l'économie et adapter, je crois bien, à son système de gouvernance, à ses réalités, plutôt tout un principe de chemin qui, malheureusement, amène plus à la stagnation, plutôt qu'à à l'avancement. 081-891-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Café vous donne la parole. Au Café Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Nous avons Maître Adrien qui nous appelle de Kananga au Kasaï occidental. Maître, vous êtes avec nous dans cet échange. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Et nous savons aussi que la province du Kasaï occidental reçoit de l'aide à travers le gouvernement central. Il y a des coopérations bilatérales. On voit des fois des ONG qui travaillent. On voit des fonds qui financent des projets. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que depuis que vous êtes là, vous avez quand même observé qu'il y a eu des situations qui se sont améliorées suite à ces différentes aides reçues par la province, par exemple? Ou si les choses n'ont pas marché, qu'est-ce qui doit être fait pour l'avenir, Maître Adrien?
Oui, merci Pierrot. Je pense que le constat reste le même, donc le constat est général, c'est-à-dire... C'est comme qui dirait un verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a un sérieux problème toujours qui se pose en matière d'aide, tel que vous le dites. Il y a d'abord un problème d'inefficacité sur terrain, donc manque de visibilité de tout ce qui se fait. Il y a aussi manque de transparence dans tout ce qui s'effectue comme activité. Mais au-delà de tout ça, lorsque je me suis penché sur la question, je me rends compte que c'est vrai, il serait mieux qu'on puisse changer donc des fusils d'épaule. Je demanderai à nos amis, c'est vrai, tout en associant le gouvernement, mais de beaucoup plus travailler avec le privé. Parce que lorsque un privé est sur un projet, le privé fait quand même un effort. Bon, si pas à 100%, même à 60 ou 70% de réaliser ces projets-là. Deuxièmement, il y a aussi un comportement qu'il faut aussi déplorer, c'est le comportement de donc ceux-là qui aident. Parce que j'ai eu à m'entretenir avec quelqu'un qui gère aussi un projet, mais il y a aussi des conditions difficiles. Il y a ce qu'on appelle opération retour, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur un projet, le bailleur sont en train de vous engueuler, donc vous êtes obligé de retourner quelque chose, sinon... Si vous ne faites pas ça, prochainement, vous n'aurez pas encore à gagner quelque chose par rapport à ces messieurs-là. C'est ce qui fait que lorsque les travaux sont sur terrain, ça ne leur dit absolument rien. Il n'y a pas de suivi. Donc pour eux, qui est tout simplement une signature, attestant qu'il y a un projet au Kasaï occidental, bon, l'efficacité ou quoi, ça ne leur dit pas absolument rien. Donc c'est comme ça que nous avions essayé de penser que travailler avec le privé, c'est beaucoup plus mieux que travailler avec le gouvernement, parce que nous avions un souvenir un peu amer par rapport à l'aide de l'intervention de la Banque mondiale pour, donc de l'Union européenne pour la route Chikapa-Kananga. Là, c'est le gouvernement qui est sur ce projet-là, mais personne ne peut détrôner le gouvernement et il n'y a pas d'explication claire. On nous dit tout simplement, non, attendez, les projets vont commencer aujourd'hui, les travaux vont commencer demain, mais c'est depuis 2005, semble-t-il, que l'Union européenne avait déjà financé. C'est comme ça, mais si c'était un privé, je pense que le gouvernement pouvait même aussi intervenir si c'était un privé. Donc c'est comme ça que moi je pense, Pierrot, au-delà de tout ça, non seulement il faut travailler avec le privé, mais aussi la recommandation, c'est vraiment de définir une politique claire et nette en cette matière pour savoir qu'est-ce que nous voulons de toutes les aides que nous recevons, soit de l'extérieur ou bien de l'intérieur de notre pays. Mm-hmm. Voilà un peu ce que j'avais à dire, Pierrot.
Mais Maître Adrien, si je peux vous garder un tout petit peu, vous avez là soulevé la question de la transparence, n'est-ce pas, dans la passation de marché, la question des suivis, des gestions de fonds. Parce qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement que l'argent soit décaissé et tout le monde s'en fout. Que les travaux soient exécutés, par exemple, qu'un projet soit mené à bien jusqu'à son terme, personne ne s'en occupe. Mais vous savez, si on est arrivé aujourd'hui à débourser beaucoup d'argent pour assister les ONG, c'était aussi pour contourner cette question de l'inefficacité dans la gestion de projets de partenariat entre les bailleurs de fonds, que ce soit les partenaires avec l'État. C'est pour cela que les ONG ont pu aussi naître. Mais alors, on se rend compte que les difficultés sont les mêmes parce que l'inefficacité des projets, ce n'est pas seulement la question de l'État, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, la gestion des projets par les privés. Alors, il y a ici une rencontre qui a eu lieu entre le ministère du Plan, le ministère de la Coopération internationale et régionale, estimant qu'il faudrait une structure plus efficace qui puisse arriver à coordonner toutes ces aides. Est-ce que pensez-vous qu'avec une telle structure, on peut arriver à résoudre cette question, Maître Adrien?
Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec cette façon-là de voir les choses. Parce que lorsqu'il y a une structure, on aura quand même certaines réalités qui nous échappent au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est vrai, vous avez cité le cas des ONG. C'est comme ça que lorsque vous prenez les ONG, bon, il y a le même problème. Il y a surtout ceux qui tuent, c'est quoi? Et le partenaire et ceux-là qui reçoivent, ils ont du mal à communiquer vis-à-vis de la population. C'est un secret des polichinelles, mais s'il y a une structure qui coordonne, je pense que ça pourra régler le problème de la transparence.
Merci.
Parce que non seulement, soit une ONG ou bien qui sera sur le projet, mais ça sera coordonné par cette structure et tout le monde, si quelqu'un a besoin d'avoir une information claire là-dessus, il pourra tout simplement se rendre au frais de cette structure pour avoir un peu de renseignements. Donc,
moi, merci.
Je pense que c'est ça même la solution, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître. Vous avez ajouté une autre option, c'est la suggestion de la population dans la communication de tout ce qui s'est fait sur terrain. Obed, vous nous appelez d'Ouvira en province orientale. Vous nous avez écrit votre message en disant que le problème est de deux côtés, que ce soit du côté des donateurs ou bien de bénéficiaires. Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que l'aide puisse être plus efficace sur terrain, Obed? Vous êtes avec nous. Obed, vous nous appelez d'Ouvira dans la province du Sud.
Le gouvernement arrive d'abord à analyser l'aide que reçoit le donateur. Est-ce que cette aide-là répond aux besoins présents de la population, aux besoins présents du pays? C'est ça, j'ai vu par exemple ça, il y a un pays voisin que je ne citerai pas le nom ici, que l'Union européenne avait donné une aide en imposant les conditionnalités que cette aide-là pourrait être orientée vers la construction des hôpitaux. Mais le gouvernement a analysé avec les experts du pays, ils ont trouvé que les besoins n'étaient pas prioritaires.
Mm-hmm.
Ils ont d'abord essayé de construire des hôtels 6 étoiles, et après 2 ans, ils ont vendu ces hôtels-là, et qui ont donné les bénéfices doublement. Et après, ils ont construit par après les hôpitaux. Donc, nous voyons que parfois, les conditionnalités qui tombent de la part des donateurs ne répondent pas aux besoins de la population, aux besoins qui est prioritaire pour les pays. Donc, il faut que le gouvernement soit vraiment martyr à analyser, à négocier les dons, à négocier l'aide qu'on octroie. Sinon, rien ne sera fait. Parce que ces gens-là qui donnent, ils vous donnent, mais ils donnent des conditionnalités qui ne vont pas vous aider à se développer. Par contre, ça va vous aider à se nouer davantage. Donc, il faut une analyse profonde, il faut des stratégies de la part du gouvernement, de la part des experts du gouvernement, pour que cette aide-là soit vraiment une aide dans le sens de la population.
Merci beaucoup, Obed. D'ailleurs, pour vous compléter, lors de la signature de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, effectivement, les pays d'honneur, si on peut utiliser les termes qui ressortent de cette stratégie, et s'engagent à faire reposer l'ensemble de leur soutien, stratégie, pays, dialogue sur les politiques à suivre et programmes de coopération pour le développement. Cela veut dire que les donateurs devront en principe se baser sur les stratégies nationales de développement. C'est pour que vérifier vraiment effectivement cette efficacité. Parce que là, vous estimez qu'il y a des partenaires qui interviennent en fonction des priorités qui sont fixes, et pourtant, le besoin pour le pays ou pour la communauté, c'est un autre besoin. Il faut tenir compte de cela pour arriver vraiment à avoir l'effet de l'aide sur la population. Merci beaucoup, Obed Douvira, dans la province du Sud-Kivu. Nous retournons ici à Kinshasa. Chris, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Chris, vous êtes avec nous. C'est l'autre Chris qui est avec nous en direct sur les antennes. Chris, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous.
Donc, voilà. Vous avez suivi Maître Adrien, vous avez suivi Obed, et Obed a beaucoup insisté sur le fait qu'il faut tenir compte des priorités définies par le pays qui reçoit de l'aide. C'est de cette manière-là que l'aide pourra être profitable à la population. On vous écoute, Chris.
Oui, merci de m'avoir accordé cette opportunité vespérale. D'ailleurs, c'est une bonne émission pour que nous intervenions. Alors, selon notre thématique du jour, évidemment, la RDC reçoit une aide auprès de ses partenaires internationaux pour le bien-être de la population. Évidemment, est-ce que la RDC vraiment répond à ce bien-être de la population? Moi, je vois que ce n'est pas une vérité. J'aimerais un peu vous donner un peu un exemple. Vous savez que les COPIREP, les comités chargés pour les comités de pilotage, en fait, chargés pour des entreprises qui ne sont pas en mesure de payer leurs fonctionnaires. Alors, ces comités-là avaient remis une somme d'argent à la régie des eaux, en fait. Permettez-moi que je vous cite cette entreprise qui avait bénéficié de cette priorité-là. Et il avait remis l'argent. Et lorsque cet argent est arrivé dans la société, au sein des chefs qui géraient l'entreprise, ils ont remis des moitiés d'écart, donc l'argent dont celui qui avait remis ne s'attendait pas que c'est ça que se faire. Donc moi, je pense dans tout cela, il y a une mégestion. On peut nous aider. Le fait qu'il y ait une mégestion au sein des chefs qui dirigent, rien n'ira.
Et ça sera difficile. Chris, vous avez évoqué les copyrights, les comités de pilotage pour la réforme des entreprises publiques. Vous estimez qu'il y a eu plusieurs contrats signés, que ce soit pour la gestion de l'Exonatra, on l'a vu aussi avec la société canadienne Manitoba Hydro pour la SNEL, pour la régie des eaux. Mais vous estimez que le fonds qu'on reçoit et dans ces contrats de performance, malheureusement, ça ne résout pas les problèmes. Parce que là, vous évoquez le cas de la mégestion, ce qui fait aujourd'hui que cet argent ne puisse pas résoudre la question du développement à la base. Merci beaucoup, Chris. Nous allons écouter Ernest qui est à Matadi, dans la province de Congo central, et revenir dans ce studio pour que notre invité puisse se placer un mot. Ernest, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Piro.
Mais on vous écoute, Ernest.
Merci beaucoup. Je crois, sincèrement, dans cette histoire de l'aide, nous avons deux chemins à suivre. Le premier chemin, c'est le gouvernement qui a pour mission d'assurer le développement du peuple.
Mm-hmm.
Or, les aides étrangères qui passent par les services du gouvernement ont démontré des limites. Ce qui fait qu'au niveau de la communauté internationale, on a favorisé en déviant le gouvernement pour passer dans les organisations non gouvernementales. Et c'est là où on intervient. À ce niveau-là aussi, comme vous devez me voir, les aides n'arrivent pas à résoudre réellement les besoins de la société et ainsi obtenir le développement ou le mieux-être de la population. Ce qui fait que c'est le gouvernement qui est responsable pour retracer les voies et le contrôle même de ces aides qui viennent pour attirer la confiance de ceux qui se battent, les contribuables étrangers qui cotisent des fonds pour le bien-être, par exemple, de notre pays ou des pays du tiers-monde. Et cela signifie que comme il y a méfiance au niveau du gouvernement, on vient dans un secret parallèle par les organisations non gouvernementales, et là aussi le problème se pose, parce que comme elle intervient dans la vie, il y a ce système de opération retour qui fait que parfois on vous donne de l'aide autant de millions, mais parmi les agents qui fait des exécutions, on retrouve encore des milliers ou des cadres des pays donateurs qui viennent alors avec un grand salaire. et l'autre va affecter ses faits. C'est fait pour l'objectif à viser. On se trouve que ça ne représente absolument rien, parce que tout l'argent est récupéré par ce même donateur, par leur logement, leur transport, leur conduite, leur reconstruction. Et ce qui fait que le gouvernement devrait saisir ces opportunités pour bien retracer et mériter la confiance de ces donateurs, pour que les biens tombent sur les bénéfices tombent sur la population, bénéficiaire ou la population supposée bénéficiaire de ces aides financières ou matérielles qui viennent de l'extérieur.
Merci beaucoup, Ernest. Cette question a été aussi évoquée plusieurs fois, que ce soit dans les discussions au niveau du ministère des Plans, même dans nos entrevues pour préparer ces genres d'émissions. Il y a des experts qui sont inquiétés pour dire, et c'est vrai, que vous avez des fonds qui arrivent et la moitié des fonds est plus utilisée dans les études de faisabilité et même les salaires des cadres de ces structures même qui financent. Et en fin de compte, on ne sait pas comment cela fait profiter à la population. Beaucoup de messages ont été déposés par les internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Germain Aboki, il dit ceci, le grand problème aujourd'hui réside dans la volonté politique, que ce soit de ceux qui donnent de l'aide ou bien le pays qui reçoit, comme la RDC par exemple. Il suffit tout simplement qu'on puisse canaliser tous les fonds reçus pour les projets sans tenir compte de son confort personnel, et de cette manière on peut arriver à aider la population à travers ces aides. Il y a Arsène Paboubi qui nous écrit des fonds gourmets dans la province du Katanga. Il pense, lui, que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volonté pour que l'aide extérieure puisse profiter à la population. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est interpeller le pouvoir public pour qu'on développe des méthodes de gestion qui puissent permettre à ce que l'aide profite à la population. Roger Sindani, qui est à Kisangani, dit, bon, la RDC ne va pas continuer comme un bébé, comme un enfant, à attendre toujours qu'elle reçoive de l'aide de l'extérieur pour se développer. Il faudrait tout simplement changer notre système de gestion avec nos propres ressources. On peut arriver à résoudre cette question du développement. Ngoge Socrate, qui nous écrit, bien sûr, des Zimbabwe, il dit ceci, le problème aujourd'hui, ça doit être la transparence en ce qui concerne la gestion de l'aide, parce que vous verrez qu'il y a, la population n'a pas profité d'un programme, mais ceux qui gèrent le programme, vous les trouvez avec un train de vie au-delà même de leurs moyens. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas la transparence dans la gestion des projets, même dans la passation des marchés, ça sera très difficile que la population puisse bénéficier aider toutes ces aides. Vous avez besoin d'intervenir en direct, appelez-nous au 081-890-6315, 081-890-6315.
Au Café Rétro, fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit, avec les mix de DJ David.
Christian Mani Akili, vous avez suivi nos compatriotes, il y a la question de la transparence, la question des priorités, la question de la gouvernance, et voilà les questions de fond qui se posent. Votre commentaire.
Oui, tous ont parfaitement raison. Ce qu'ils ont dit est très pertinent, et je donne plus raison à un auditeur, je ne sais pas d'où il est, mais qui a dit que la RDC ne peut pas continuer à être pris en charge comme un bébé. Il faudra qu'à un moment donné, nous puissions...
C'est Roger Sindani qui est de Kisangani.
Oui, oui, nous prendre en charge par nous-mêmes. J'ai pris part au forum économique sur la croissance économique, justement, RDC, la croissance économique inclusive, qui s'est tenue au mois de janvier de cette année. Et dans ce forum, les intervenants, qui étaient la plupart les professeurs d'Harvard, ont conseillé au gouvernement de savoir, oui, il y a une rente minière. Le gouvernement dit certes que, bon, voilà, nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, c'est, voilà, le bénéfice que nous tirons de nos mines. Mais il y a un questionnement. Ils disent, mais ce qui cause justement votre déficit économique, c'est que vous consommez directement le bénéfice des mines que vous vendez, mais vous ne les réinvestissez pas. Donc fondamentalement, en RDC, nous avons ce grand problème de savoir réinvestir, de mettre en place une politique efficace de création de richesses. Quelqu'un qui est à la tête du FMI disait qu'il faut savoir réformer à temps. Moi, ce que je pense, c'est surtout de savoir comment réformer.
Mm-hmm.
Tout à l'heure, je disais que voilà, nous sommes activement engagés dans un modèle démocratique sans savoir pourquoi. Mais ce modèle, moi, je le trouve qui constitue une lourdeur sur l'efficacité de notre économie. Il va falloir effectivement se mettre, je le disais, autour d'une table pour en parler. Et il va falloir, justement, on annonce le dialogue, je ne vois pas pourquoi il y a des hésitants par rapport à ça, mais ces dialogues doivent logiquement nous amener à un autre forum qui sera celui-là, un symposium national historique qui justement va consister à parler de ces grands enjeux de la République et voir dans quelle mesure est-ce que nous serons appelés à être efficacement sur le plan économique et s'agissant des APD, des aides publiques au développement, s'il faut ou non continuer à les recevoir et comment les canaliser.
Et dans cette canalisation, il y a un autre ami au Bud qui n'a pas voulu citer les noms d'un pays voisin. Un exemple passant, les pays reçoivent de l'Union Européenne de l'argent, qui estimait qu'il fallait construire des hôpitaux, et ils disent, voilà, donnez-nous l'argent, nous construisons des hôtels que nous allons revendre après, nous construisons les hôpitaux. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les réalités de la communauté. Et la plupart des cas, c'est que la communauté voit les aides, les programmes des partenaires, des bailleurs de fonds pas sans qu'elle soit réellement intégrée dans l'élaboration des stratégies sur la définition des priorités par rapport à ces aides.
Je le disais au début de l'émission, je citais l'ONG internationale AIBON, pour qui l'histoire de l'aide n'a jamais démontré qu'ils ont que l'aide publique au développement a visé le développement des pays. Voilà, c'est un exemple de ce que le collègue a dit, le concitoyen a dit. Mais par rapport à l'RDC, j'estime que l'inefficacité de notre gouvernement intervient dans la mesure où, en RDC, nos gouvernements sont mis en place, ils sont composés sur base des enjeux politiques et non sur base des enjeux idéologiques. On ne vise pas à mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, mais on vous met là par rapport au poids politique que vous représentez, par rapport aux intérêts que vous pouvez apporter à la majorité qui est au pouvoir. Et donc, ça sera toujours un problème. Et quelqu'un d'autre parlait d'une structure, à l'exemple un peu d'un pays de voisin, le Rwanda, on nous parle d'une structure que le Rwanda aurait mis en place, voilà, une structure qui gère toute l'aide accordée au pays. Oui, ça peut être bon, dans la mesure où le gouvernement qui est en place, il n'est pas démocratique. Si c'est un gouvernement qui perdure au pouvoir, il peut contrôler tout ça si cela va dans la logique de la politique qu'il mène. Si ce gouvernement-là mène une certaine politique d'efficacité, un dictateur gentil, comme on dit, ça peut marcher. Mais ça ne peut pas forcément marcher dans un gouvernement démocratique. Pourquoi ? Parce que ce qui est prioritaire pour vous ne le sera pas forcément pour l'administration qui vous remplacera. Et donc, si vous vous engagez dans un projet comme celui de la santé, construire des hôpitaux par exemple, l'administration qui vient, vous n'aurez pas parachevé cette œuvre, mais l'administration qui vient trouvera que la priorité pour elle sera plutôt de se lancer dans la construction des infrastructures, routes et ponts, voilà. Et donc il y aura une cassure par rapport à ce que vous aurez commencé. Et donc même le fait de mettre en place une structure comme ça qui s'occupe de l'aide ne va pas empêcher qu'il y ait une cassure selon les priorités, ne va pas empêcher qu'il y ait aussi des corruptions, hein, la corruption, c'est ça aussi que nous accusons souvent chez nous. Bon, voilà, l'aide part selon les ministères et là-bas, bon, il y a un décaissement, il y a quand même de l'argent qui est pris par certains décideurs, mais même le fait de mettre une structure comme ça ne va pas empêcher que la corruption continue, même si cette structure est prise en charge ou gérée par la société civile. Il y aura toujours un moyen.
Mais le problème, comme vous l'avez dit, c'est de voir comment définir un modèle économique, un modèle de gestion propre pour ne pas continuer toujours à marcher dans les chemins qui ont été déjà tracés. C'est un estimant que ces chemins peuvent résoudre la question. Et là, on se rendra compte que l'aide pourra toujours être inefficace. Franck, vous nous avez rejoint dans cet échange. Vous nous appelez de Vienne. Vous êtes avec nous. Bonjour, Franck. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Merci. On a vu que ce sont des exprimés.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je tentais de me situer par rapport à ce que l'invité est en train de dire, aussi par rapport à ce que les autres ont déjà mis comme point de vue. Moi, personnellement, je suis d'accord avec eux. Quand nous nous mettons d'accord, là, on dit que aucun pays ne peut se développer véritablement à base des aides qui viennent de l'extérieur si la volonté politique de le faire développer n'est pas d'abord la préoccupation de ses dirigeants en place. Ça, c'est un des principes sur lesquels on peut déjà se mettre d'accord. Mais partant de la thématique que vous avez soumise au débat d'aujourd'hui, personnellement, j'ai trois petits avis à émettre. Le premier avis, c'est de dire ça dépend d'abord de quel cercle d'appartenance pour évaluer ce qui est en train de se faire là chez nous pour l'amélioration du social des peuples congolais. Il y en a qui savent un peu d'où viennent tous ces fonds et qui sont en mesure de justifier des traçabilités de ces fonds et ils savent que l'argent est venu de tel pays pour ça. Et quand vous soumettez de telles thématiques au débat, ils sont en mesure soit de défendre ce qui se fait sur place chez nous, soit de se défendre eux-mêmes. Donc là, il y a un lien entre les gestionnaires et ceux qui leur sont très proches, qui comprennent les vraies origines de ces fonds et les traçabilités. Le deuxième groupe constitue les gens qui savent d'où viennent ces fonds, mais qui sur place ne voient pas la vraie traçabilité de ces fonds par rapport aux besoins destinés. Et ce sont ceux qui, par exemple, arrivent à dénoncer qu'on avait reçu ceci par tel pays, mais rien n'est fait sur place. Le troisième groupe, c'est le groupe de ces gens qui ne savent rien de ces fonds et ne voient rien. Parfois, ils sont même surpris quand on leur parle qu'il y a, par exemple, un projet pour faire ceci et l'argent est venu de tel pays pour les aides au développement, tout ça. Et j'appuie mes arguments à base d'un témoignage. Le gouvernement congolais, RDC, a annoncé un plan de reconstruire 1000 écoles par an sur toute l'étendue de la République.
Mm-hmm.
Et sur vos ondes, on a déjà débattu plusieurs fois sur cette thématique avec comme invité parfois le ministre lui-même. Je n'interviens pas pour dire que les 1000 écoles promises ne sont jamais construites. Il y a quelques écoles construites dont nous avons des preuves. Mais maintenant, si nous devons rentrer sur le nombre 1000 par année, je ne sais pas si c'est vérifiable. Ça, c'est d'abord un. Puis de deux, une autre question, est-ce que toutes les couches de la population congolaise sont-elles correctement informées sur l'origine de ces fonds? Je doute fort, car lors de mes échanges avec un des responsables de l'OPST au niveau de nos provinces, notre compatriote semblait ne rien comprendre. Il m'a même dit qu'il n'a jamais entendu parler de tel projet que le ministère de l'OPST dispose de fonds pour aider la construction de certaines écoles dans certains pays de la République. Et partant de ce constat, je peux dire ceci. On peut dire que beaucoup de compatriotes ne voient pas l'amélioration des forces sociales et moi, je me réfère à l'état de nos écoles car je suis enseignant de formation et de vocation. Qu'est-ce que je veux dire pour l'émission d'aujourd'hui? On peut créer un comité de coordination tel que vous l'avez suggéré, mais avec quel gestionnaire qui n'ont pas de volonté politique manifeste. Parfois, on tente de faire quelque chose, mais les citoyens congolais comme bénéficiaires ne sont pas correctement informés sur les origines de ces aides, sur les origines, les sources de provenance, ça c'est un. Puis de deux, nous devons aussi nous rappeler que la main qui donne a toujours tendance à téléguider la manière de réaliser. J'ai eu un copain au niveau de la coordination diocésaine quelque part qui n'est plus malheureusement là. Une fois, il m'a partagé ceci. On devait réceptionner une école. L'école a été sélectionnée selon les critères. Mais au moment de l'obtention de la réception des frais, il devait signer une décharge avec un montant plus élevé par rapport au montant qu'on lui donnait. Donc, on lui demande de signer la réception de plus de 10 000 dollars alors qu'en espèce, on lui donnait que 5 000. Donc, il y a un copain qui a dit qu'il y a parfois des retenues à la source de manière directe ou indirecte. Mais c'est à nous d'abord de comprendre tout ça. Et là où moi, je condamne mes compatriotes congolais, quand les gens vous donnent quelque chose pour aider, mais on doit aussi quand même être conséquent, sincère et loyal pour faire arriver l'aide à la destination. Mais si quelqu'un vous donne, lui-même soutire, vous aussi à qui on le donne, vous soutirez encore entre l'étranger et vous-même fils du pays, qui est plus criminel. Je trouve qu'on ne doit pas toujours attendre que ça vienne des autres. Ce pays nous appartient et le développement de ce pays ne manera que de la transparence, merci, de la loyauté et de la justice, car quand il n'y a pas de justice, mm-hmm, quand on ne sait pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça devient un problème. Et là, je me mets d'accord avec votre invité quand il dit que dans certains pays, ne peut être responsable que celui qui répond au programme du gouvernement. Mais chez nous, ce n'est pas toujours le cas. Chez nous, ne peut être là que celui qui remplit les critères politiciens. Il doit avoir autant de clients dans son parti politique, il doit avoir autant de poids politiques dans son coin, et c'est alors qu'il pourra faire passer certaines médiocrités pour des excellences. Et dans l'entretemps, nous nous moquons de la population, c'est pas ça. Donc,
merci. Merci beaucoup, Franck. Voilà.
Ça marche, merci, Franck. Ça fait que quand il y a une bonne volonté politique et des bons critères de sélection objectifs.
Merci, Franck. Vous avez évoqué la question de la traçabilité, la question de l'information, la loyauté aussi. Il y a ces opérations au retour. Et ça devient très compliqué pour des fois que la population comprenne ce qui se passe, mais tout doit se faire sur base des critères objectifs. Il y a Olivier Bonyoma qui nous a écrit en disant ceci, le problème est très compliqué parce qu'il y a d'abord l'immensité du territoire national, ça sera difficile de se rendre compte réellement de ce que l'aide peut faire, ça dépend de quel coin on a dû réaliser des projets. Il y a aussi le problème de la priorité, de ce qui doit être fait par rapport aux besoins de la population, mais il y a la problématique de la corruption, des commissions, tout cela doit être résolu pour permettre à ce que l'aide puisse apporter des solutions dans la population. Maître Sonville, vous nous avez rejoint dans cet échange, vous êtes à Lubumbashi, dans le Katanga, bonjour.
Bonjour M. Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio de la paix.
On vous écoute, Maître Sonville.
Oui, par rapport à la thématique passée à la constitution d'une coordination, ça peut quand même résoudre peut-être le problème à moitié, mais cette coordination sera gérée par quel genre d'homme? C'est là où la question se pose. C'est là où la question se pose, monsieur Pierrot et la Mégie. C'est quel genre d'homme, quel profil qui doit présenter les gens qui seront chargés de la manipulation de cette coordination. Cela se pose un problème, puisque dans l'attribution des marchés, il y a toujours à boire et à manger. Il y a le clientélisme qui s'ingère, qui se manifeste. Il y a la corruption, il y a le tribalisme, il y a plusieurs antivaleurs qui interviennent dans ce domaine-là. À titre illustratif, monsieur Giel, et bien, monsieur Pierrot, vous savez que si le marché qui sont accordés à nos Congolais, passés par le pouvoir public, il y a toujours des problèmes. C'est pour cela que nos partenaires traditionnels veulent travailler avec le privé, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Parce qu'avec le privé, avec nos partenaires traditionnels tels que l'UNICEF, l'IRC et consorts qui sont chargés peut-être de la construction des ponts dans les milieux ruraux, de l'approvisionnement de l'eau potable dans les milieux ruraux, tout cela passe par le privé. Parce qu'à ce moment-là, lorsque cette relation est gérée par nos partenaires traditionnels, il y a quoi à s'attendre à un résultat succinct. Mm-hmm. Parce que même si, avant même de payer, avant même d'honorer à la facture des contractants, il y a une commission qui descend sur les lieux pour la vérification du travail qui a été fait. Et d'ailleurs, avant même de signer un contrat, de signer un contrat avec un partenaire, il s'impose par rapport à la compétence de ce partenaire. Or, avec le pouvoir public, il peut confier le marché à n'importe qui pour vous que les donateurs, les décideurs se retrouvent par commission. Vous savez, M. Pierrot, je peux même évoquer un cas illustratif là où une entreprise publique en son temps, la Cisaral, qui a été gérée par M. Classe. Comment est-ce qu'il avait procédé pour sa réussite? Il signait des contrats avec des particuliers et le paiement se faisait par virement bancaire pour éviter que les gens-là qui étaient au commercial puissent demander des commissions quand bien même le travail n'est pas bien fait. Et à ce moment-là, il y avait même quand même traçabilité dans l'attribution des marchés et ça s'est justifié. Avec nos frères congolais, ce n'est pas que moi je suis congolais. Mais lorsque ça ne tient pas quelque part, il faut les dénoncer.
Il faut le dire. Alors, un problème sérieux que vous avez tout à l'heure posé à Maître Sonville, le problème de la crise de confiance, n'est-ce pas, dans l'homme, vous pensez qu'on ait une structure de coordination de l'aide, c'est bon, mais ça va être géré. Et par qui? Comment on peut se passer de l'opacité dans la passation de marché, le clientélisme, la corruption, voilà toutes ces questions. Et c'est pourquoi vous estimez que le problème d'abord, c'est de travailler sur l'homme. Alors, Kisha Mani, vous avez suivi les compatriotes, il y a ce travail qui doit être fait dans l'homme, parce qu'on estime que c'est l'homme qu'il faut travailler au-delà de toutes les structures. Si l'homme est vraiment outillé pour résoudre ces questions, on peut arriver à voir l'impact de toutes ces actions sur le bien-être de la population.
Oui, écoutez, c'est un problème majeur, mais le fait d'opter pour les particuliers, comme certains le disent, même ce pouvoir-là ou ce choix-là doit être dicté par le pouvoir public. Ce sont des aides publiques au développement. Donc même ces bailleurs des fonds, ces partenaires, ils ne peuvent pas apporter de l'aide dans un pays en sautant l'État. Il doit forcément passer par l'État, et c'est l'État qui va se décider, oui, vous traitez avec X ou Y, ou de le gérer lui-même. Mais il y a un autre aspect. Même quand on passe par des particuliers, par des investisseurs privés, il faut que la population sache une chose par rapport à ces investisseurs privés. Généralement, un investisseur, les investisseurs généralement ne considèrent pas l'Afrique en général et l'RDC en particulier comme un marché, mais comme un capital. Ils viennent simplement puiser du capital chez nous et avec leurs bénéfices, aller le réinvestir ailleurs, là où les besoins réels d'extension de marché sont ressentis. C'est purement économique. Et à leur place, n'importe quel économiste, n'importe quel affairiste agirait pareil. Et donc, il y a même un problème de ce côté-là. Moi, je pense que toute cette situation est justifiée, comme on l'a dit dans cette émission, est justifiée par le fait du brouhaha politique qui règne déjà dans notre pays et qui favorise tout ça. Moi, je pense que l'objectif, c'est de ne plus continuer avec le système politique actuel qui oppose deux tendances politiques, mais d'adopter un nouveau système qui opposera deux tendances idéologique. Et avec des idéologiques, il sera plus facile de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et plutôt que de créer une structure des gestions de l'aide, mettre uniquement la responsabilité sur notre ministère de l'économie. Si une idéologie prend le pouvoir et que le ministère de son économie gère tout ça, ce sera efficace. Et si une autre idéologie prend le pouvoir, elle voudra toujours que son ministère de l'économie soit plus performante que le ministère économique de l'économie de l'idéologie précédente. Et donc, on ira comme ça de performance à performance, et ce sera beaucoup mieux, je pense.
Platini, Bobo, vous êtes en bandage, je remets à Kinshasa, on va terminer avec vous à cette émission. Par la conclusion, Platini, vous êtes avec nous, bonjour. Platini Bombo, bonjour. Allez-y, on vous écoute. On va compter vers la fin de l'émission rapidement, Platini.
Merci beaucoup, Pierrot. Merci de m'avoir accordé la parole. Et dans tout ça, parce que je suis mon ami de Anga, et je suis aussi l'invité. Et dans tout ça, c'est un problème d'immoralité de la population congolaise. Dans quel sens? Vous allez voir que quelqu'un qui a écrit son projet, et son projet est d'aider ses cours, aider les orphelins, les enfants de la rue, tout ça. Et il a écrit son projet, et il a signé au prince des bailleurs des fonds, son partenaire, et le partenaire lui-même envoie les fonds. Et les fonds-là, il y a trois phases, première phase, deuxième phase, troisième phase. Et au retour, le bailleur des fonds a donné seulement la visibilité sur le terrain. Alors, quand l'agent arrive, quelqu'un qui a construit son projet, il a fait l'agent, il a commencé à acheter des motos, des maisons, il commence à vendre tout ça. Et sur le terrain, la population qui a besoin de bénéficier de cette somme-là n'a pas bénéficié. Et au retour, quand le bailleur de fonds vient, comme on appelle le juge, le contrôle, voit réellement ce que le travail fait sur le terrain, il n'a rien sur le terrain. Et moi, je voudrais quand même poser la question à l'invité qui est avec nous là-bas. Est-ce que qui dit la loi congolaise, qui dit la loi congolaise de la RDC, quand quelqu'un détourne l'argent que le bailleur de fonds a envoyé pour aider la population, pour aider les orphelins de la province de l'Équateur, pour faire le bâti du congo, mais quelqu'un est libre comme ça, il a.
Détourne ça, qu'est-ce qui dit la loi? Et ça, c'est une question importante que vous avez posée, Platini. Vous estimez qu'il y a un problème aujourd'hui de détournement. Cela veut dire on recourt aux bailleurs de fonds, mais quand on a ces fonds, ça ne résout pas le problème du projet défini dans la sollicitation des fonds. Alors, qu'est-ce qui dit la loi quand on détourne? C'est la question que vous avez posée. On va terminer cette émission avec vous, Germain. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Germain.
Oui, bonjour Radio Kati et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute. En une minute et demie, votre point de vue.
Oui, je pense que tout est presque dit au cours de cette émission, mais je n'ai rien parlé d'une chose. Ce qui est quoi, ce qui manque à la RDC, ce n'est pas les moyens pour améliorer les conditions de vie humaine. Cela se justifie à dépendre par le fait qu'on trouve à Kinshasa et à travers le pays des responsables des services de l'État qui possèdent des villas et autres biens matériels qui coûtent plus cher que le salaire qu'ils touchent à la fin du mois. Et qui nous poussent à croire que même les aides que le pays reçoit n'apporteront toujours à rien au pays, tant que nos dirigeants ne changent pas leur mentalité, et cela dans tous les secteurs, à vie, et bien avec toute opiniâtreté politique, le développement de ces pays.
Et c'est important ce que vous avez dit, le train de vie hein, de responsables du pouvoir public hein, qui ne cadre pas avec ce qu'ils gagnent en termes de primes et salaires. Et aussi longtemps qu'on ne saura pas résoudre cette question de gouvernance, on ne va pas résoudre le problème. Merci. Et Mogisho, maître Mogisho de Bukavu, il dit ceci, le problème aujourd'hui, c'est la capacité de l'homme politique congolais de pouvoir définir un modèle de gestion pour éviter qu'on puisse tomber dans le détournement. Alors, Félix Kankonde lui dit, mais c'est pas possible qu'il y ait 55 ans après, que nous puissions toujours recevoir des autres l'argent pour nous développer. Cela a été aussi dit par Christophe Kéchi, qui estime que nous avons beaucoup de potentialités et ressources. Il suffit tout simplement de pouvoir les exploiter pour arriver à résoudre la question du développement sans passer par l'aide. Et dit Mukendi, qui nous a écrit des Lubumbashi, il dit, mais toutes les initiatives sont bonnes, mais quel est l'objectif pour lequel l'aide est donnée? Faudrait-il continuer à recevoir de l'aide alors que notre pays est bourré de richesses? Il suffit tout simplement de pouvoir définir les méthodes de gestion. Nous pouvons résoudre la question. C'est aussi le point de vue développé par Olivier Bakia qui est à Kisangani. Lui, il estime que le problème aujourd'hui, c'est un problème de confiance dans l'homme congolais. Maître Sonville venait de le dire tout à l'heure. Abandon de ville, Guilain Ngamboué nous a écrit, il est revenu sur les problèmes de l'enrichissement. Il cite, voilà, autant de points de vue de nos auditeurs sur cette question. On revient à vous, Christian Amani. Vous avez suivi les uns et les autres en une minute et demie. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la conclusion de cet échange?
Oui, l'émission d'aujourd'hui a porté sur les APD. Les amis ont posé un autre problème, celui de détournement. Il va falloir forcément qu'on puisse initier une autre émission sur le détournement pour répondre à ces questions qui sont fondamentales. Mais pour clôturer cette émission, j'aimerais bien dire quelque chose qui est vraiment d'actualité en RDC et qui nous concerne tous. L'économie comprend deux grands ensembles, que sont la macroéconomie et la microéconomie. Aujourd'hui, le gouvernement se tape la poitrine d'avoir pu stabiliser le cadre macroéconomique, ce qui est une bonne chose. Mais le gouvernement n'est pas encore arrivé à maîtriser ou à stabiliser le cadre microéconomique. Et pour arriver justement à stabiliser le cadre microéconomique, justement ça implique tout l'enjeu du développement, tout l'enjeu de la politique du développement que le pays doit mener maintenant. Et c'est la raison pour laquelle il est fondamental, il est important d'adhérer dans la logique d'opposer deux blocs idéologiques. Je pense que le pays ira plus plus vite en termes de développement si nous adoptons ce modèle-là que si nous restons dans le modèle actuel. Merci.
Merci beaucoup, Tristan Amani Akili. Vous êtes économiste et chercheur indépendant et acteur social. Merci de votre contribution dans ces magazines. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Julie Faiza a assuré la réalisation. Mimi Kimbe était à la mise en onde. Pierrot et la Meiju vous l'a présenté sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver par nos auditeurs sur www.radiocatu.net, mais aussi à NFM à 23h30 heure de Kinshasa. Pour le moment, il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.